Bien, nous reprenons si vous êtes prêts. Et nous accueillons aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Philippe Forest. Alors Philippe Forest est à la fois universitaire et écrivain. J'ai d'abord connu comme auteur d'ouvrages importants sur l'histoire de Tel Quel et sur Philippe Sellers. Cette histoire de Tel Quel, publiée en 1995, il y a 15 ans, est un livre important. Enfin, il faisait entrer Tel Quel dans l'histoire littéraire et c'était un livre très intéressant dans lequel il y avait une importante contextualisation de tout cet épisode. Il est aussi l'auteur d'un livre antérieur sur Philippe Sellers. Donc il y a toute une partie de son travail qui porte sur la littérature française, également sur la littérature japonaise. Il y a un beau livre sur Oe, qui a été publié il y a quelques années, romancier extraordinaire, romancier japonais. Philippe Forest, donc, il est universitaire, il est professeur à l'Université de Nantes en littérature comparée, mais beaucoup d'entre vous le connaissent aussi ou surtout par plusieurs très beaux livres publiés aux éditions Gallimard, qui sont des romans ou des récits. L'un, le premier, qu'il a beaucoup fait connaître, qui s'appelle « L'enfant éternel », qui est un récit d'une mort, de la disparition d'un enfant. J'évoquais tout à l'heure la magnifique lettre de Montaigne à son père sur la mort de la poésie. Voilà de très beaux textes que je vous recommande. Et puis alors, il est l'auteur plus récemment d'un livre qui... J'étais l'an dernier au Japon pendant 2 mois, et on parlait beaucoup de Sarinagara, qui était un best-seller au Japon. Enfin, me disait-on, il y a longtemps qu'un livre français ne s'est pas autant vendu dans les librairies du Japon au printemps dernier. Alors je vous recommande aussi Sarinagara. Les deux ouvrages sont disponibles chez Folio, collection de poche. Alors, je n'ai pas lu le dernier, Le Nouvel Amour, donc je n'en dirai rien, mais L'Enfant éternel et Sarinagara sont de très beaux livres que vous devez lire. Alors, aujourd'hui, il nous a donné comme titre « Vrai témoin de la vérité », et il me disait qu'il parlerait plutôt que du témoignage, le témoignage ayant été notre sujet de séminaire l'an dernier, mais comme je l'ai dit, je ne voyais pas beaucoup de frontières entre le témoignage et l'écriture de la vie. C'est pourquoi cette année, j'ai laissé le même titre pour les deux parties, le cours et le séminaire. Vous avez la parole.
Je vous remercie pour cette invitation et pour cette présentation. Je ne parlerai pas directement des livres que vous avez eu l'amabilité de rappeler. Je vais plutôt, encore que je veux bien en parler tout à l'heure si l'occasion se présente, mais je me préparais plutôt à procéder à une sorte de détour par la figure d'un grand philosophe du 19e siècle, mais un détour qui, je l'espère, va nous ramener sur un territoire qui est donc celui du séminaire, à travers la question du témoignage, séminaire dont je n'ai pu suivre que les séances de l'année dernière à travers le site, donc il y aura peut-être un effet de désynchronisation entre ce que je vais dire et ce que vous avez déjà entendu, des tours qui devraient me ramener aussi du côté des thèmes que j'ai abordés dans mes romans et aussi du côté d'une question qui, je crois, est un peu revenue sur le devant de la scène à la faveur d'un certain nombre de débats et de polémiques de cette année littéraire. L'idée, en une phrase, disons, c'est d'essayer de montrer comment, à mon sens, le texte littéraire, quelle que soit la forme qu'il emprunte, doit être gagé sur l'expérience du réel, d'où un certain rapport, un rapport à la fois nécessaire et ambigu de ce texte littéraire à la vérité. Le texte trahit la vérité, c'est-à-dire qu'à la fois il l'exprime et il lui est infidèle. Mais donc je procéderai par détour, et peut-être que l'intervention que j'ai préparée est un peu longue, donc je me permettrai d'en sauter des passages pour rester dans les limites du format de ce séminaire. Je partirai d'un événement assez ancien, microscopique à l'échelle de l'histoire. Le 30 janvier 1854, à l'âge de 78 ans, s'éteint un certain Jacob Peter Minster, qui est évêque de Zealand. Je pense que ça se prononce comme ça. Il s'agit de la plus grande des îles du Danemark. Minster est donc l'un des principaux dignitaires de l'Église de son pays. C'est un pasteur éminent, respecté, et c'est la raison pour laquelle lui va l'hommage de funérailles nationales. À l'occasion du discours qu'il consacre à sa mémoire, un autre théologien, du nom de Hans Larsen Martensen, théologien dont personne n'ignore qu'il brigue la chaire épiscopale qui vient juste d'être laissée vacante par le défunt. Donc ce Martensen salue solennellement en Minster un vrai témoin de la vérité. Je le cite, « un vrai témoin de la vérité, non seulement en parole et en déclaration, mais en acte, prenant place ainsi, c'est toujours Martensen qui parle de Minster, dans la chaîne sacrée des témoins de la vérité qui s'étend au cours des siècles depuis l'époque des apôtres. » Un homme, alors, à Copenhague, et je pense que je vous ai déjà donné suffisamment d'éléments pour que vous ayez deviné de qui il s'agit, cet homme, donc, à Copenhague, et c'est par lui, bien sûr, que toute cette histoire subsiste un tout petit peu dans notre mémoire, cet homme, donc, il s'agit de Søren Kierkegaard, prête une attention toute particulière et assez critique à ce concert d'éloges unanimes. Il faut dire qu'autrefois, avant d'être porté au sommet de l'Église danoise, Minster fut l'un des très proches amis de son père. Il était le pasteur de la famille Kierkegaard, celui dont Søren lui-même a reçu sa première éducation religieuse. Et même le différend qui par la suite a opposé le vieux Minster au jeune Kierkegaard, ce différend n'a pas tout à fait altéré l'affection et l'admiration que Kierkegaard porte à Minster. Jusqu'au bout, paraît-il, Kierkegaard n'a pas perdu l'espoir de gagner le vieux pasteur à sa cause et de le convaincre de dénoncer publiquement l'hypocrisie qui, aux yeux de Kierkegaard, règne dans la chrétienté moderne et qui rend cette chrétienté infidèle à l'exemple de Jésus. Donc la mort de Minster, le 30 janvier 1854, prive Kierkegaard de cet espoir, de cette ressource. Et l'hommage convenu surtout que Minster reçoit de l'Église danoise convainc Kierkegaard que désormais il devra livrer tout à fait seul le combat sans merci qui l'oppose désormais, pense-t-il, au monde. C'est surtout l'éloge de Martensen qui exaspère Kierkegaard. Ayant laissé passer le temps de la réflexion, après 10 mois de silence, Kierkegaard répond à Minster, très exactement le 18 décembre 1854, dans un article intitulé « L'évêque Minster était-il un témoin de la vérité, un des vrais témoins de la vérité, est-ce vrai ?» Alors cet article est publié dans un journal danois et 20 autres articles vont suivre. Et puis l'année d'après, Kierkegaard, qui insiste, qui s'obstine, fait paraître à nouveau une dizaine de numéros d'une feuille d'un journal qu'il a créé tout seul, et à seule fin de poursuivre son offensive polémique. C'est un journal qui s'intitule L'Instant et qui va être accompagné à nouveau de 2 autres textes, 2 brochures, dont l'une porte un titre assez explicite, « Cela doit être dit, que cela soit donc dit ». C'est l'époque de ce que tous les biographes de Kierkegaard nomment son attaque finale contre l'Église, et de fait, le philosophe ne lui survit pas, puisque à son tour, le 11 novembre 1855, Kierkegaard meurt à l'âge de 42 ans. C'est donc de cette attaque de Kierkegaard contre l'Église danoise, attaque donc suscitée moins par le décès de Münster que par l'éloge que celui-ci a reçu, c'est donc de cette attaque que je voudrais partir pour essayer de réfléchir à la notion de témoignage littéraire et au lien qui existe entre le texte littéraire et la vérité. L'argument essentiel que met en avant Kierkegaard dans tous ses textes, que vous trouverez dans le dernier volume des œuvres complètes de Kierkegaard en français, l'argument essentiel que met en avant Kierkegaard consiste à souligner que, selon lui, il existe une incompatibilité radicale, totale, définitive, entre les honneurs, le confort, la respectabilité raisonnable et tranquille dont jouit un homme tel que Münster, incompatibilité donc entre ces honneurs, et le statut de vrai témoin de la vérité, qui au contraire, selon Kierkegaard, doit vouer l'individu à l'incompréhension, à l'opprobre, et même à quelque chose qui ressemble assez bien au martyr. Je cite Kierkegaard, définissant donc ce qu'est à ses yeux un vrai témoin de la vérité. « un vrai témoin de la vérité, c'est un homme battu de verges, maltraité, traîné de prison en prison, et finalement il est crucifié, décapité, brûlé sur le bûcher ou rôti sur le grill, et son corps sans vie est jeté sans sépulture par le bourreau. C'est ainsi qu'on enterre un témoin de la vérité, ou bien ses cendres sont jetées à tous les vents, afin que soit effacée toute trace de ce rebut qu'il est devenu, suivant le terme de l'apôtre. » Donc, telle est la conviction de Kierkegaard, qui est affirmée avec beaucoup de violence, vous l'avez entendu, qui est réitérée avec entêtement, plusieurs dizaines de textes obsessionnellement construits autour de cette seule idée. Et l'idée, c'est donc de mettre en place une conception qui permet de distinguer le vrai témoignage, celui du martyr, du faux témoignage, celui de l'homme d'Église, tel que Münster en a incarné le statut. À l'horizon de cette dénonciation, Kierkegaard veut surtout mettre en évidence ce qui, à ses yeux, constitue la menace essentielle qui pèse sur le christianisme. Je le cite à nouveau. Quelle est cette menace ? Voilà ce que Kierkegaard explique. « En vérité, dit-il, il est une chose plus contraire au christianisme et à l'essence du christianisme que toute hérésie et que tout schisme, que toutes les hérésies et tous les schismes ensemble, et c'est jouer au christianisme. Mais exactement, toujours Kierkegaard qui parle, comme l'enfant joue au soldat, c'est jouer au christianisme que de supprimer les dangers, et pour le christianisme, témoins et dangers se correspondent, et que d'y substituer la puissance, les biens, les avantages, une abondante jouissance, même des plus délicats raffinements, pour jouer alors au jeu de dire que l'évêque Münster fut un témoin, l'un des vrais témoins de la vérité, et le jouer avec un si terrible sérieux qu'on ne peut plus l'arrêter, mais continue de le jouer en le portant au ciel, en jouant à ranger l'évêque Münster dans la chaîne sacrée des témoins de la vérité qui s'étend de l'époque des apôtres à nos jours. » Voilà, telle est l'idée dont je souhaite partir et qui est sans cesse reprise par Kierkegaard, et particulièrement dans les textes d'apparence testamentaire par lesquels donc s'achève son œuvre, idée donc qui paraît constituer un peu comme le fer de lance de sa démonstration, ou plutôt, je dirais, comme la pierre de touche de sa protestation. Jouer au christianisme, telle est l'hérésie et le schisme suprême. Jouer, explique-t-il encore, nouvelle citation, c'est copier, singer un péril là où il n'y en a pas, tout l'art consistant à feindre avec le maximum d'illusion la réalité du danger. C'est ainsi que les soldats jouent à la guerre sur le champ de manœuvre, le danger en est absent, l'on fait seulement semblant d'y croire, et il s'agit en fait de donner à tout un air de vraisemblance, l'apparence d'une lutte à mort. Alors bien sûr, je ne suis pas moi-même un vrai témoin de la vérité, je ne suis pas même un philosophe chrétien, je suis d'ailleurs ni philosophe ni chrétien. Je ne sais pas si je suis plus philosophe que chrétien ou plus chrétien que philosophe. Donc je parle certainement avec un peu d'imprudence de Kierkegaard. J'en parlerai même sans aucune autorité si Kierkegaard lui-même n'avait pas toujours insisté sur le fait que lui-même, il ne prétendait personnellement à aucun de ces titres. ni témoin de la vérité, ni philosophe, ni même chrétien. Kierkegaard ne revendique absolument pas ces différentes appellations, mais, et c'est ici qu'on rejoint, je crois, le champ de nos préoccupations, il se définit essentiellement, lorsqu'on lui pose la question, comme un poète. Mais un poète à qui arrive-t-il, dit-il, de jeter sa guitare pour, explique-t-il assez étrangement, se métamorphoser en une sorte de policier de talent qui va, au nom de la simple honnêteté, demander des comptes à l'hypocrisie publique. Et jeter sa guitare, se transformer en policier de talent, demander des comptes à l'hypocrisie publique, c'est précisément donc ce que fait Kierkegaard en janvier 1854, alors qu'il s'apprête à se lancer dans cette grande attaque contre le christianisme visant à définir ce qu'est un vrai témoin de la vérité. Je vais peut-être vous épargner le passage suivant, parce qu'il avait essentiellement pour but de me prémunir des critiques éventuelles que pourraient m'adresser des spécialistes de Kierkegaard si par hasard ils s'en trouvaient dans la salle. Je le dis simplement en deux mots. En général, on lit Kierkegaard comme un philosophe et on a bien sûr raison de le faire. Mais il me semble qu'il y a une autre lecture de Kierkegaard qui est possible, et c'est bien sûr celle dont je me recommande, celle que j'essaye de pratiquer tant bien que mal ici, c'est de lire Kierkegaard comme un écrivain, voire comme un romancier, puisque vous savez que toute l'œuvre de Kierkegaard est essentiellement une œuvre plurielle et éclatée, dans laquelle Kierkegaard pratique non seulement l'art du traité philosophique, mais également celui du roman, avec un texte comme La Reprise, ou de la fable, il me semble que Crainte et tremblement s'apparente pas mal à une fable, ou même du journal, voire le fameux journal du séducteur. Et la plupart de ces textes, philosophiques ou littéraires, étant signé soit du nom de Kierkegaard, son orthonyme, soit de toute une série de pseudonymes qui du coup apparaissent comme des narrateurs, des personnages de romans qui sont les uns par rapport aux autres, tous en conflit et en contradiction, si bien qu'il est tout à fait difficile de savoir où se tient Kierkegaard et finalement où il se situe dans une œuvre qui est véritablement une œuvre, si vous voulez, polylogique ou dialogique, à la manière dont quelqu'un comme Bakhtin nous a amené à penser ces notions. Donc on ne sait pas trop si l'œuvre de Kierkegaard est une œuvre philosophique qui simule parfois des formes romanesques, ou si elle est au contraire une œuvre romanesque qui parfois simule des formes philosophiques. Je vais prendre la deuxième option, parce que c'est bien sûr celle qui m'arrange. Elle m'arrange et elle nous permet de nous situer sur le terrain qui, je crois, est le nôtre ici. Kierkegaard touche donc de manière assez radicale à la question du vrai témoignage. Qu'est-ce que c'est qu'un vrai témoignage ? Et puisqu'il se revendique comme poète, et puisqu'à ce titre il adopte une position qui est assez complexe à l'égard des discours de la philosophie et de la religion, il me semble que Kierkegaard aborde cette question du témoignage d'une façon qui peut, qui doit même intéresser la réflexion littéraire. Avec toute une série d'ambiguïtés qui font la complexité et la richesse de cette position et que j'aimerais éclaircir un peu donc, dans les minutes dont je dispose. Philosophie ou littérature, je disais à quel point il est difficile de situer Kierkegaard d'un côté ou de l'autre, et c'est précisément la raison sans doute pour laquelle il pose d'une façon si exemplaire la question des relations entre fiction et vérité. D'un côté, Kierkegaard se revendique comme écrivain, il justifie l'exercice de la parole littéraire au nom de toute une théorie qui est tout à fait passionnante mais qui est difficile à reconstituer parce qu'elle est dispersée dans toute son œuvre, une théorie de ce qu'il nomme lui-même la communication indirecte. Et il compare cette communication indirecte à la maïotique telle que la pratiquait Socrate, donc une démarche, ou disons plutôt une méthode, qui vise moins à offrir à autrui une vérité toute constituée qu'à mettre le lecteur en mouvement, le lecteur ou l'interlocuteur, en mouvement, afin que ce lecteur ou cet interlocuteur, donc par le biais de la communication indirecte, découvre la vérité, mais le fasse par lui-même et en quelque sorte personnellement. Transmettre directement un savoir positif, comme le peut par exemple le discours objectif de la science ou de la prédication, risque, explique Kierkegaard, de ne produire aucun effet lorsqu'on touche aux questions essentielles et essentiellement personnelles du salut, et particulièrement à une époque, explique Kierkegaard, où s'est installé ce qu'il appelle la fausseté de la foule, et puis surtout dans la mesure où toutes ces questions, donc du salut, de la vérité, etc., elles ne peuvent faire l'objet d'aucun enseignement en réalité. Elles ne peuvent être atteintes, ces questions du salut, de la vérité, etc., elles ne peuvent être atteintes qu'au travers d'une expérience qui est donc toujours une expérience singulière. Et cette expérience singulière, dit Kierkegaard, justifiant ainsi la littérature, c'est celle-là même à laquelle peut appeler par exemple la fiction, le roman, qui met en scène sous forme d'intrigues, de personnages, des situations incarnées, des affects vivants, enfin, tout ce qui est le lot concret de tout existant. Il me semble que si on veut la traduire en des termes qui nous soient moins étrangers, hein, cette conception n'est pas très originale et elle n'est pas très différente, par exemple, de celle que développe Proust, notamment dans Journée de lecture, lorsque Proust nous explique que la lecture est au seuil de la vie spirituelle, elle peut nous y conduire, mais elle ne la constitue pas. C'est une citation de Proust. Si bien que pour Proust, comme pour Kierkegaard, pour Proust après Kierkegaard, la littérature assume seulement un rôle d'incitatrice en direction de la vérité. Une vérité que nous ne pouvons réaliser, écrit encore Proust, que par le progrès intime de notre pensée et par l'effort de notre cœur. Pour Kierkegaard, donc, la fiction est justifiée, parce que, alors même qu'elle paraît parfois abonder dans le sens de l'illusion, elle constitue une invitation adressée à autrui afin qu'il se détache de cette illusion, mais qu'il le fasse librement, de façon autonome, voire solitaire, en redupliquant, c'est le terme que Kierkegaard emploie, en redupliquant pour son propre compte le message existentiel du christianisme. Redupliquer, ça veut dire vérifier la vérité de la seule manière qui soit, c'est-à-dire en vivant celle-ci. Donc d'un côté, Kierkegaard justifie la littérature en lui assignant ce rôle subalterne, mais précieux, dans l'économie de tous les discours. Nous faire prendre conscience, par le biais de fiction, par le jeu de personnages et d'intrigues, nous faire prendre conscience, chacun solitairement, de la nécessité de nous détacher de l'illusion pour nous mettre en route vers la vérité. Pourtant, et c'est là qu'on touche à une première ambiguïté dans le discours de Kierkegaard, pourtant, déclare également Kierkegaard, une telle stratégie oblique, celle de la communication indirecte, ne suffit pas. Kierkegaard note dans son journal, à un moment ou à un autre, l'homme de la maïeutique doit se muer en témoin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie qu'il y a un point au-delà duquel, semble dire Kierkegaard, cette communication indirecte, qui est le propre de la littérature et de la fiction, cesse d'être opératoire, cesse de valoir. Il y a un seuil au-delà duquel l'ironiste auteur de fiction, le faiseur de romans, ne peut pas aller, hein, car au-delà de ce seuil, eh bien, l'individu, le sujet, doit affronter à un moment ou à un autre, d'une manière ou d'une autre, l'épreuve du vrai. C'est pourquoi, donc, d'un autre côté, Kierkegaard, qui paraissait justifier l'usage de la littérature, dénonce simultanément la littérature, parfois, comme une sorte de mensonge. Il parle de fraude ou de tromperie. Donc, fraude, tromperie, tantôt justifiée parce qu'elle contribue à leur manière à l'expérience ultime de la vérité, tantôt, au contraire, condamnable lorsque la littérature donc, se constitue comme un obstacle sur le chemin qui mène à cette vérité. Dans ce dernier cas, alors, pour Kierkegaard, la littérature relève du faux témoignage. Ou plus exactement, toute forme de faux témoignage relève de ce qu'il faudrait nommer la littérature. Alors je voudrais élaborer un peu sur cette proposition qui est au cœur de l'argumentation développée par Kierkegaard. Et tout tourne autour du verbe « jouer ». Jouer au témoin de la vérité au lieu d'être vraiment ce vrai témoin de la vérité qu'il appelle de ses voeux. Jouer, explique Kierkegaard, cela revient à simuler sans risque l'expérience du vrai, à singer un péril inexistant, de manière à tirer d'une telle représentation un profit et un prestige personnel. Jouer à la vérité, singer la vérité, telle est, ressasse Kierkegaard, la faute, dit-il, des prêtres et des poètes, qu'il confond dans une même réprobation. En fait, il reproche aux prêtres d'être en réalité des poètes, et il reproche de même aux poètes d'être en réalité des prêtres inavoués. C'est-à-dire des individus qui essayent de passer aux yeux du monde pour de vrais témoins de la vérité, alors que toute leur posture vise à les préserver du sacrifice authentique auquel les exposerait l'épreuve du vrai s'ils l'affrontaient autrement qu'avec des mots creux, ceux des sermons ou ceux des poèmes. Le témoignage de ces faux témoins, le témoignage des prêtres et des poètes, des poètes, des prêtres, des prêtres-poètes, ce témoignage, explique Kierkegaard, est un témoignage, dit-il, de parade. Alors, bien évidemment, je ne lis pas le danois, et donc je suis réduit à faire confiance à la traduction, mais en l'occurrence, cette traduction française produit un concept qui est assez intéressant, parce que, bien sûr, nous, Français, nous entendons ce mot « parade » dans toutes les significations simultanées qui sont les siennes. Parader, c'est à la fois se pavaner, bien sûr, mais c'est aussi se parer, c'est-à-dire se protéger du danger. Une telle attitude, témoignage de parade, consiste à n'invoquer la vérité que sur le mode d'un subterfuge qui vide le vrai témoignage de toute sa valeur afin d'en faire le prétexte à la production de purs effets esthétiques assez dérisoire et tout à fait intéressé. Voilà le tour de passe-passe, hein, explique encore Kierkegaard, qui escamote le vrai et qui substitue à celui-ci une plaisante et décorative contrefaçon. Contrefaçon à laquelle va la reconnaissance du corps social, puisque dans ce tour de passe-passe, à la vérité, dangereuse, périlleuse, risquée, fatale en un sens, à la vérité se trouve substitué quelque chose d'autre dont on peut jouir finalement impunément. Kierkegaard, je cite encore, « La chose qui, si elle se passait dans la réalité, apporterait la plus terrible souffrance, devient par l'art du poète la plus délicate jouissance. » Alors bien sûr, une telle transmutation hein, d'un objet d'effroi et de souffrance à un objet de jouissance, ça correspond tout à fait à ce qu'on a été habitué depuis très longtemps à penser à partir d'une théorie qui est celle tout simplement de la catharsis. Mais cette théorie-là, Kierkegaard en un sens, la réfute. Et pour lui, procéder à ce que j'appelais précédemment un tour de passe-passe, cet effet de substitution d'un simulacre à une vérité, tout cela met très gravement en péril l'hypothèse même d'un accès possible à la vérité, vouant du même coup la parole à l'inoffensif et à l'insignifiant. Il y a de très longs développements de Kierkegaard et tout à fait intéressants sur ce qu'il nomme la sentimentalité religieuse et littéraire qui règne dans le monde hein, et qui conduit donc à jouir de la vérité, mais à le faire sans accepter les risques qui accompagnent l'exercice d'une telle jouissance. On retrouve là, c'est quelque chose à quoi j'avais été attentif depuis longtemps, une autre définition de la sentimentalité, tirée de Meredith, mais qui est célèbre surtout parce qu'elle a été citée par Joyce dans Ulysse, et qui consiste exactement dans les mêmes termes que ceux qu'utilise Kierkegaard, qui consiste, cette sentimentalité, à jouir du réel, mais sans acquitter la dette contractée à l'égard de celui-ci. L'Église, alors, pour Kierkegaard, devient le lieu d'un théâtre où se joue une représentation assez rassurante de l'existence. Un théâtre plus pernicieux encore, bien sûr, que le vrai théâtre, car au lieu d'avouer, de revendiquer son caractère illusoire, il s'emploie à le dissimuler. La réalité tout entière se transforme alors en une sorte de spectacle, donc de spectacle sentimental, où, au nom d'une croyance vidée de toute sa substance vive, sévit, aux yeux de Kierkegaard, la pire charlatanerie satisfaite. Donc bien sûr, pour entendre ce que je suis en train de dire, il y a toute une série de transpositions à effectuer, du Danemark du milieu du XIXe siècle à la France du début du XXIe siècle, et de la question du témoignage religieux à la question du témoignage littéraire. Il est bien évident, par exemple, que Kierkegaard vise les prêtres, mais il suffit d'avoir un peu fréquenté les colloques universitaires, les rencontres littéraires, les ateliers d'écriture, les soirées poétiques, pour convenir que son humour concerne tout autant le petit clergé des écrivains d'aujourd'hui, auquel, bien entendu, je n'oublie pas que j'appartiens aussi. Pour le plaisir, je cite encore une formule de Kierkegaard, qui est aussi un auteur assez drôle. « Au déclin du paganisme, déclare Kierkegaard, vivaient certains prêtres appelés augures. L'un, dit-on, ne pouvait regarder l'autre sans sourire. Bientôt, dans la chrétienté, nul ne pourra regarder un prêtre, nul son voisin sans sourire, mais aussi nous sommes tous prêtres. » Alors je vais souligner maintenant un peu la transposition sur laquelle repose mon intervention pour être entendu, et essayer de voir de quelle manière on peut déduire, donc, des derniers textes de Kierkegaard, une sorte de théorie, encore que c'est une théorie un peu aporétique, impossible, une sorte de théorie du témoignage littéraire et de son rapport à la vérité. Ce qui est intéressant, c'est que Kierkegaard, et en cela il est un écrivain moderne, je crois, il parle bien sûr en poète, mais il parle en poète contre la poésie. Et parlant en poète contre la poésie, Kierkegaard conçoit le témoignage comme la protestation du vrai. Mais une protestation tout à fait particulière, parce que c'est une protestation qui s'élève bien sûr contre la littérature, mais qui, s'élevant contre la littérature, s'élève aussi depuis le dedans de celle-ci. D'où cette contradiction, cette aporie, ou cette impossibilité sur laquelle je voudrais dire un mot. D'un côté donc, l'écrivain, parlant contre la littérature, se donne à son tour pour le vrai témoin de la vérité, et il le fait selon un modèle qui est un modèle explicitement religieux, puisque ce modèle, en toute logique, le conduit à s'identifier au martyr de la foi. Tout repose finalement sur quelque chose qui a vraiment valeur de gage pour Kierkegaard, et qui est tout simplement la souffrance subie ou choisie. Enfin, on ne sait pas trop si elle est subie parce qu'elle est choisie ou choisie parce qu'elle est subie. Enfin, toujours est-il que c'est cette souffrance qui devient à la fois la source et la sanction de l'expérience esthétique. L'œuvre procède de la douleur qui, en retour, l'authentifie. On peut donc dire que cette douleur est à la fois la condition et la caution de l'œuvre littéraire. Et on a là, bien sûr, une conception qui est une conception tout à fait classiquement, si j'ose dire, ou tout à fait banalement romantique. Avec une expérience qui s'exaspère, hein, quand l'artiste, au lieu de passivement déplorer sa condition de victime, en arrive à revendiquer cette condition, de manière à établir à ses yeux et à ceux du monde qu'il témoigne bel et bien pour le vrai. Parlant contre le mensonge du discours partagé, contre la fausseté de la fiction ordinaire, subissant pour cette raison l'incompréhension, l'opprobre, l'artiste aspire encore à davantage. Il en appelle à une sorte de mise à mort, de lynchage, au moins symbolique, par lequel se trouverait confirmée la vocation à laquelle il prétend. Bon, et bien sûr, on retrouve ici des choses tout à fait connues, hein, du côté de ce qu'on peut appeler tout bêtement la mythologie du poète maudit et du côté de grandes œuvres du XIXe siècle, ne serait-ce que celle de Baudelaire. Mais c'est quelque chose qui s'exaspère, disais-je, aussi dans le champ de la littérature du XXe siècle, avec quelqu'un comme Céline, dont on voit bien comment il pose au bouc émissaire dans ses derniers livres, ou peut-être plus exemplairement encore Artaud qui se sacre lui-même et non sans raison en suicidé de la société, si bien qu'on a des écrivains comme Céline, comme Artaud, etc., qui donnent l'impression de poser un peu souverainement sur leur propre front et de leurs propres mains la couronne d'épines un peu dérisoire tout en étant tout à fait impériale, qui va les désigner glorieusement au titre non pas d'écrivains, parce qu'ils se prétendent davantage que des écrivains, mais au titre de vrais témoins de la vérité. Loin de se dérouler seulement dans l'espace truqué du texte, la démonstration, pour être complète, exige, me semble-t-il, en tout cas pour des écrivains comme ceux que je viens d'évoquer, que la vie vienne vérifier l'œuvre, qu'elle la reduplique, au sens de Kierkegaard. Redupliquer, c'est être ce qu'on dit. Et l'œuvre ne peut y parvenir qu'à la condition de consentir enfin au désastre qu'elle exprime. Mais, et c'est le mais qui est le point essentiel dans la démonstration que je vous propose, mais d'un autre côté, l'œuvre ne peut exprimer ce désastre où elle se vérifie qu'à la condition de survivre, fût-ce partiellement et provisoirement, à ce désastre, convertissant malgré tout en littérature, au sens de ce n'est que de la littérature, convertissant en littérature l'expérience dévastatrice du vrai, qui, en principe, n'appellerait pas d'autre témoignage que le témoignage muet du martyr. En ce sens, l'écrivain, en tant qu'écrivain, parlant malgré tout depuis la littérature, et quelle que soit l'épreuve authentique à laquelle le soumet par ailleurs l'existence, la folie, la mort, le deuil, etc., l'écrivain, dans le moment même où il consent aux mots inappropriés du poème, du roman, substitue, en dépit de tout et même en dépit de lui-même, au témoignage vrai, qui serait muet, une sorte de simulacre de celui-ci. Il joue, malgré lui, au martyr. Malgré lui, il copie et singe le martyr, qu'il est peut-être par ailleurs, n'invoquant la protestation authentique du vrai que pour aussitôt faire prendre en charge celle-ci par la parole poétique qui ne la traduit, cette protestation du vrai, que dans la mesure très exacte où elle la trahit aussitôt. Alors même qu'il aspire au destin sacrificiel du témoin, l'écrivain, et c'est tout particulièrement vrai de Céline, d'Artaud, sait bien que son œuvre, pour exister, doit se déployer dans l'instant qui sépare l'instant de l'écriture, dans l'intervalle pardon, qui sépare l'instant de l'écriture, de l'instant de la mise à mort. Et du même coup, le déploiement de l'œuvre, sa simple constitution, diffère le moment du désastre. Et l'échafaud sur lequel l'artiste se tient se transforme aussitôt en une sorte de scène qui est à la fois un pilori et un pinacle. L'écrivain devient l'histrion de sa propre souffrance. Il joue une pièce, comédie autant que tragédie, et finalement il se compromet forcément en consentant à ce que Artaud lui-même appelait la cochonnerie des mots. Cette situation, nul ne l'a mieux expliquée avec davantage de limpidité que Michel Léris, je crois, dans sa très célèbre préface à l'âge d'homme, où Léris compare la littérature à la tauromachie. Ce texte est très célèbre, affirmant que le livre n'est rien s'il n'est pas semblable à l'arène au sein de laquelle l'individu affronte le danger effectif du vrai. Mais Léris ajoute aussitôt que l'écrivain n'a jamais affaire au taureau lui-même, hein, malgré tout. Au mieux, ce qu'il affronte, ça n'est même pas sa corne, mais seulement l'ombre de sa corne. Donc il y a chez Léris une conscience très aiguë de cette contradiction qu'à partir de Kierkegaard j'essaye de pointer du doigt et qui montre comment dans ce rapport conflictuel à la vérité où s'engage l'écrivain, pour survivre au conflit qu'il met en scène, l'écrivain n'a d'autre ressource que de trahir en quelque sorte la vérité à laquelle malgré tout il se doit. Je m'aperçois que j'avais préparé quelque chose de vraiment très long, donc je vais être obligé de sauter pas mal de choses. Je ne voudrais pas sauter le passage polémique de cette intervention, donc je vais le lire et puis après je conclurai rapidement. Polémique parce qu'il n'est plus d'écrivain d'aujourd'hui, je le crois, ou plutôt je le constate, qui ne prétende désormais au titre de vrai témoin de la vérité, revendiquant en toute bonne conscience sa place au sein de la chaîne sacrée qui s'étend au cours des siècles depuis l'époque des apôtres, témoignant et puis maintenant témoignant pour le témoin et bientôt pour le témoin du témoin, l'écrivain devenu l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours, ne vendant plus la peau de celui-ci avant de l'avoir tué, mais Tartuffe et Tartarin à la fois, faisant religieusement commerce de cette peau bien longtemps après que le péril de la chasse soit passé. Vrai témoin de la vérité, à tel point qu'il convient sans doute de décliner ironiquement pour soi-même un tel titre, afin de mieux faire apparaître le caractère un peu piteux d'une prétention si unanime. Telle était précisément la ruse que recommandait en son temps Kierkegaard, et à laquelle il n'est pas interdit à un écrivain aujourd'hui d'avoir recours, à son tour, soulignant sur quelle imposture générale repose la fiction du vrai. Je grossis un peu le trait de manière à ce que la charge polémique ne soit pas perdue malgré les coupures que je fais dans l'intervention que j'avais préparée. On ne compte plus, par exemple, les romans aujourd'hui dans lesquels des auteurs bien vivants, en bonne santé, confortablement installés devant leurs pages et parfois même lucrativement rémunérés pour leur martyr de papier, déclare témoigner au nom du peuple infortuné et sans voix des exclus et des opprimés, des malades et des morts, des victimes de toutes les catastrophes qui les ont épargnés, s'appropriant ainsi une expérience effective dont ils ne savent rien, mais dont ils se servent afin d'en faire la caution frauduleuse de leur propre fiction sentimentale. On est exactement dans le cas de figure, me semble-t-il, que dénonçait Kierkegaard. On joue à la vérité, et tout cela est pour de faux, comme le disent les enfants. En effet, on peut toujours dire « pousse », en tout cas lorsqu'on écrit ou lorsqu'on lit. Parce que dire « pousse », ça n'est pas toujours possible quand on vit. Si bien que le témoignage littéraire, lorsqu'on le pratique sous cette forme-là, me semble correspondre tout à fait à ce témoignage de pure et piteuse parade que dénonçait Kierkegaard, parce qu'il lui manque les preuves de ce que Kierkegaard lui-même appelait la reduplication. Donc je vais essayer de terminer. J'évoque juste un texte sur lequel j'aurais souhaité m'arrêter. Il me semble que le texte, enfin à mes yeux, celui qui a été le plus éclairant pour penser cette question du témoignage littéraire, c'est le texte de Primo Levi qui s'intitule « Les naufragés et les rescapés ». C'est un texte dans lequel on trouve constituer une vraie théorie du témoignage, à laquelle notamment Giorgio Agamben a été sensible dans son livre qui s'intitule « Ce qu'il reste d'Auschwitz ». Et comme vous le savez peut-être, si vous avez lu ce livre qui est un classique, je crois, Primo Levi donc y oppose, à partir de son expérience de déporté, il oppose donc d'une part les naufragés, ce qu'il appelle les naufragés, d'autre part ce qu'il appelle les rescapés. Les naufragés, ce sont ceux qui n'ont pas survécu à l'épreuve des camps et qui ont donc été empêchés de porter témoignage sur ce qu'ils avaient vécu. Et pourtant, dit Primo Levi, eux seuls auraient eu le droit de dire. Si bien qu'en lieu et place de ceci, ce sont désormais les rescapés qui doivent parler. Les rescapés, ce sont ceux qui ont échappé à la déportation ou qui ont survécu à celle-ci. Mais les rescapés doivent parler en ayant conscience de l'indignité de leurs propres paroles. Parce que c'est seulement au nom des autres, en lieu et place de ceci, qu'ils s'expriment. Et Primo Levi, qui le dit, bien sûr, a lui-même connu l'horreur des camps. Et donc, s'il voulait jouer au témoin de la vérité, il aurait d'assez bons arguments à faire valoir pour pouvoir prétendre au statut prestigieux que d'autres usurpent. Mais Primo Levi, et c'est là sa grandeur, s'y refuse. Il dit « il faut témoigner », mais il ajoute aussitôt que ce témoignage est nécessairement infidèle, indigne et coupable. Il est à la fois indispensable et impossible. Et il me semble que c'est cette même contradiction que Kierkegaard essaye de mettre en avant. Je vais peut-être m'arrêter là.